Et on va poursuivre les échanges avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous nous rejoignez, vous le savez, hein, jusqu'à 14h, vous pouvez réagir, interagir aussi avec nos chroniqueurs du jour. Et on va décrypter eh bien, ce débat. Marion Maréchal, Valérie Yeyé, c'était hier soir hein, sur Europe 1 et CNews. Les têtes de liste Renaissance et Reconquête aux Européennes se sont fait face lors d'un débat. Et je vous propose, avant d'en discuter, eh bien, d'écouter un échange justement autour du pacte migratoire. Valérie Yeyé en premier et ensuite Marion Maréchal.
La France va être bénéficiaire du mécanisme de solidarité. Aujourd'hui, les pays qui sont de première entrée, c'est l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France. Et qu'est-ce qui se passe? Viktor Orban en Hongrie refuse d'accueillir des migrants. L'enjeu demain, avec le texte qu'on va voter la semaine prochaine, c'est que chaque pays, les Slovaques, les Polonais, les Roumains, les Suédois, prennent leur part pour accueillir les migrants.
Madame Yeyé, évidemment, elle ne comprend pas qu'il y ait des pays qui ne veulent pas subir la répartition des migrants. Je suis toujours sidérée de voir que vous ne tenez pas compte aujourd'hui du poids social, identitaire, culturel et sécuritaire que fait peser l'immigration dans notre pays. Vous n'en parlez jamais. Mais même aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur fait le lien entre immigration et insécurité.
Voilà, le pacte migratoire, les échanges effectivement nourris. Paul Melun, vous avez regardé, suivi ce débat. Qui vous a le plus convaincu?
Bah écoutez, d'abord, il y a deux remarques. Une remarque de fond, une remarque de forme. La remarque de forme, j'ai trouvé le débat de très bonne tenue et intéressant. C'est pas mal, parce que déjà, on a un enjeu à ce que les gens votent. Pour qui? Ça, c'est leur affaire. Mais que les gens viennent voter et se déplacent, parce que c'est un vrai enjeu, et que le 9 juin, ils ne soient pas à la plage, mais au bureau de vote. Et en cela, le débat était une réussite, parce que les deux candidates ont eu le temps de s'exprimer, elles ont développé leurs idées, ça a été d'une bonne tenue, elles ont
avec
été
Laurence
polies,
Ferrari, Sonia Mabrouk.
Et Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk ont su distribuer la parole et bien problématiser les sujets. Donc je trouvais que c'était déjà, sur la forme, une réussite collective. Ensuite, sur chacune, elles n'avaient pas tout à fait la même partition à jouer. Valérie Yeyé, elle a
c'était crucial
elle.
Pour les deux, hein,
c'était
dans les
crucial
deux cas.
Pour les deux. Valérie Yeyé, c'était son premier vrai grand débat à une heure de grande écoute. C'était une émission qui était importante pour elle. C'est là où beaucoup de Français la découvraient. Elle bénéficie pas de la même notoriété que Marion Maréchal.
Elle avait fait un 20h. Elle avait fait un journal de 20h.
Elle avait fait un 20h, mais c'était sa première confrontation dans l'axe du débat. Et c'est là qu'on se révèle. Le 20h est un exercice très important, mais un peu plus stéréotypé, un peu plus calé. Donc là, elle était sur un exercice de débat. Valérie Yeyé, elle a été dans son couloir. C'est-à-dire qu'elle a défendu bec et ongle la politique d'Emmanuel Macron en tout point. Elle a été extrêmement comment dirais-je, on sent qu'elle avait préparé son débat. Marion Maréchal aussi avait préparé son débat. Marion Maréchal avait peut-être un point en plus par rapport à Valérie Yeyé, qui était son aisance. C'est-à-dire que Marion Maréchal, c'est un animal de télévision quand même. Oui. Il y a peut-être une dizaine de personnalités politiques comme ça en France qui sont très à l'aise dans l'exercice du débat, de la confrontation d'idées, là où Valérie Yeyé était un peu plus en retenue.
Et donc, on a appris il y a quelques jours qu'elle avait eu qu'elle avait tout simplement tourné de l'œil avant son plateau du journal de 20h, hein, ce qui démontre quand même une certaine forme de fragilité face à la pression. Hein.
De fébrilité face à la pression. Maintenant, effectivement, la vertu de ce débat, c'est que deux visions diamétralement opposées, et ce que vous avez pris comme extrait sur le pacte migratoire le montre bien, les deux visions quasiment les plus opposées du spectre politique. L'une considère que le pacte migratoire, c'est la panacée. Dans l'interview, d'ailleurs, ça a fait un peu tiquer Sonia Mabrouk, qui lui a demandé de répéter, elle a dit qu'il n'y aurait plus de Lampedusa et qu'il n'y aurait plus finalement de jungle de Calais avec cette histoire. Moi, je trouve ça fou de déclarer quelque chose pareil. Si vous voulez, on va reprendre le magnéto dans quelques années, il y aura toujours la jungle de Calais et Lampedusa, et Madame Yeyé va passer pour quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Donc, si vous voulez, la question migratoire, mais ils ont aussi parlé de l'agriculture, ça a été très intéressant.
Oui, il y a eu
aussi la discussion autour de la Russie qui a été importante, parce qu'on a pu voir là aussi des différences très importantes sur la façon d'aider ou pas et à quel degré l'Ukraine. Donc je crois que, quoi qu'on en pense, on ressort, si vous voulez, avec une forme de clarification et avec deux lignes qui sont tellement opposées que le débat pouvait être qu'intéressant.
Et je rappelle qu'à ce stade, hein, Valérie Yeyé est créditée d'environ 17% des intentions de vote, 17-19%. Entre 16 et 19.
Les 20,
et Marion,
minimum,
voilà, Maréchal, plutôt autour de 5%. Jean-Claude Dacier.
Non, mais je reviens pas sur ce que Paul a dit et que je partage totalement sur le style et sur la qualité du débat.
Qu'est-ce que vous retenez de ce débat?
C'était bien, et j'espère que ça va décider un certain nombre d'électeurs qui ont décidé de rester à la maison, d'aller voter, parce que c'est l'Europe quand même. Alors, je sais bien que ça fonctionne pas aussi de manière aussi satisfaisante que ça devrait, sans doute, notamment, mais pas seulement, sur l'immigration.
Est-ce que selon vous, elles ont donné envie à leurs électeurs d'aller voter hier soir?
J'en suis pas sûr, honnêtement, j'en suis pas sûr, mais bon, politiquement, il est clair que Marion Maréchal a dominé le dialogue et a dominé le débat. elle est à l'aise, elle a travaillé, elle a une vraie vision de l'Europe telle qu'elle devrait être et non pas telle qu'elle est. Valérie Ayet, je pense, a du potentiel. Moi, vous m'apprenez qu'elle avait failli tourner de l'œil lorsqu'elle a fait le 20h, mais...
Elle a tourné de l'œil dans le taxi.
Il faut se mettre à la place de... Attendez, c'est difficile de vous rendre compte. Vous allez parler à 20h ou vous allez faire un débat sur CNews.
Au 20h de TF1.
Oui. Ouais.
Vous connaissez bien.
Je ne suis pas autrement surpris que cela. Là où, effectivement, elle m'est apparue comme moins convaincante, c'est que je pense qu'elle n'est pas très critique. Et là, elle suit évidemment les consignes du président de la République à l'égard du fonctionnement européen. Or, on voit bien que ça va quand même pas fort. Bon, et notamment l'immigration, mais pas seulement. Pas seulement, il y a beaucoup de domaines. Alors, elle insiste, elle a beaucoup insisté hier soir sur le vote qui aura lieu, je crois, demain, mercredi, à Strasbourg, sur le pacte migration-asile, qui, en principe, est un accord. Ça a duré 10 ans, quasiment, avant de réussir à obtenir...
Et elle a participé aux négociations, d'ailleurs, Valérie.
Alors, elle défend un texte qui, je le crains, tu as dit, Lampedusa et autres, je crains que tu aies raison, je pense que ça va sûrement pas empêcher les problèmes que nous avons connus ces dernières années en matière d'immigration sauvage. Mais bon, c'est le bilan du président de la République. Enfin, c'est le bilan, c'est la politique du président de la République. Oui. Elle s'appelle c'est besoin d'Europe. Ça sera l'argument qu'elle va défendre tous azimuts. Hier soir, elle a été qu'à moitié convaincante. J'ai trouvé alors Marion Maréchal très bonne, à un degré près, c'est qu'elle parle trop vite.
Elle est un peu mécanique.
Un peu mécanique et trop vite. Peut-être qu'elle voulait gagner du temps et placer le maximum de choses. Bon, hier, le dernier mot n'est pas dit. Je pense que, honnêtement, la candidate de Renaissance a du potentiel.
Alors, on va continuer à parler des européennes et du côté du Rassemblement National, qui poursuit son mercato, je le disais il y a quelques minutes, après l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, l'essayiste issu de la droite, Malika Sorel. C'est Mathieu Vallée, l'ancien porte-parole du syndicat des commissaires de police, qui a donc décidé de rejoindre le parti de Jordan Bardella. C'est un peu The Voice, là, c'est le casting, ça n'arrête pas.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez fascinant du point de vue de la stratégie politique du RN, c'est qu'ils sont en train de faire ce qu'a fait jadis Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait, on avait systématiquement, vous savez, au gré des remaniements, des nouveaux entrants qui faisaient le buzz, comme on dit aujourd'hui.
On avait
Éric Dupond-Moretti, et là maintenant, c'est la même chose version RN, un par mois, on nous égrène des têtes d'affiche qui sont, pour certaines,
casting parfait, selon vous, ou pas.
En tout cas, si vous voulez, c'est cohérent. C'est-à-dire que il y a quand même des personnalités. Monsieur Leggeri a été patron de Frontex. C'est quand même quelqu'un qui est un haut fonctionnaire. Il avait été nommé à l'époque par Bernard Cazeneuve. C'est quelqu'un qui connaît très bien les enjeux migratoires au pourtour de l'Europe. Malika Sorel, ça serait plutôt une caution qui vient du monde intellectuel, même si elle avait déjà flirté avec plusieurs partis politiques depuis longtemps. Donc
ça lui est
c'est en demi-teinte. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelqu'un, Malika Sorel, qui comment dirais-je, qui serait, je sais pas moi, une écrivaine ou une romancière qui sortirait complètement.
Elle avait envie de la lumière.
Elle avait déjà un prisme politique très affirmé. Et pour ce qui est de Mathieu Vallée, moi j'ai débattu plusieurs fois avec lui quand il était patron du syndicat des commissaires de police, je crois, indépendant. C'est quelqu'un qui connaît bien les sujets de la sécurité intérieure, qui est un bon débatteur.
Un bon communicant.
Qui est un bon communicant, et ça peut leur être utile. Parce que c'est la même chose pour Renaissance. Il faut que les deux principales écuries, que ce soit Renaissance ou le RN, aient un certain nombre de snipers, comme on dit en politique, qui puissent être en mesure de porter la parole du candidat. Et ça, c'est important. Si Mathieu Vallée peut jouer ce rôle pour le RN, ça sera important pour eux.
Jean-Claude Assier, sur ce casting.
Oui, je crois qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. La liste de Bardella a de l'allure. Elle commence tout de même, je sais pas quelle place sera Monsieur Vallée, mais quelle que soit sa place, je pense qu'il sera dans les 10 premiers pour être élu, et peut-être au-delà. Je pense que la liste Bardella a incontestablement de l'allure, elle continue de progresser, puisque le dernier sondage, je crois, l'a mis quasiment à 32. Moi, je vais vous dire, j'attends quand même, on voit bien le Rassemblement National a gagné en crédibilité, la dédiabolisation est au-delà, est atteinte, néanmoins, il y a quand même, sur des élections européennes, un gros problème.
C'est quoi ?
Qui n'est pas M. Bardella. Qui est quand même qu'il y a 4 ans, Marine Le Pen voulait sortir de l'Europe et de l'euro. J'attends, mais je ne doute pas qu'il le fasse.
Qu'il prenne la parole
j'attends
sur ce sujet,
que M. Bardella
pour préciser.
Nous explique pour quelles raisons il a cautionné à ce point. C'est pas un changement, c'est un virage sur l'aile. Quand vous dites l'Europe, ça vaut pas un clou, faut en sortir. L'euro, c'est pire. Ça précipite la France dans le désastre économique. Bon, je passe. Vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi de changer.
Ouais.
Et quelle attitude vous aurez vis-à-vis de l'Europe dans le quotidien du tous les jours et autres. Il a beaucoup reproché, semble-t-il, à M. Bardella de pas beaucoup travailler. J'en crois pas un mot. Néanmoins, il va falloir qu'il s'explique. Donc, j'attends avec impatience le prochain débat.
Il sera probablement interrogé à ce sujet.
Ouais, en attendant, on va écouter tout de même Mathieu Vallée qui expliquait ce matin au micro de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1 à 8h10 pourquoi il a décidé de rejoindre le Rassemblement National.
Moi, je dis que dans la Macronie, c'est toujours les deux phases. C'est plein de promesses et après c'est plein de paresse. Quand vous avez un président de la République qui dit qu'il y a des violences policières et des contrôles aux faciès, il switch un peu les policiers. Ensuite, quand après l'affaire Naël où ce policier Florian qui a donné et consacré toute sa vie à la République et dont le président a sacrifié sa présomption d'innocence sous l'autel d'acheter la paix sociale dans les banlieues, on voit qu'il a eu le déshonneur et la guerre.
Déshonneur et la guerre.
Bien sûr, puisqu'on a des voyous qui nous ont fait la guerre. Quand on brûle des commissariats, quand on brûle des mairies, quand on brûle des services publics, quand on brûle la maison de ceux qui n'ont plus rien.
La faute à l'oisiveté notamment, a dit le président de la République, c'est le bon diagnostic.
Non, la faute à la lâcheté politique. Et moi, vous savez, je suis issu d'une cité, et le misérabilisme et le clientélisme politique, ça m'intéresse pas.
Voilà, Mathieu Vallée ce matin avec Sonia Mabrouk. Alors c'est vrai que du côté d'Emmanuel Macron, il y a Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Mais là, c'est quelqu'un qui vient du terrain, qui est dans du concret, du quotidien. Voilà, c'est et on sent qu'il, enfin évidemment, il maîtrise parfaitement les sujets dont il parle. Et là, on parle d'insécurité, de violence, d'ultra-violence.
Et puis il maîtrise les sujets.
Je t'en prie, Paul.
Pardon. Et en plus, non seulement il maîtrise les sujets, mais en plus, là, dans l'extrait que vous avez diffusé, on voit bien qu'il colle assez près à ce que pense, semble-t-il, une bonne partie des policiers qui se sont sentis
laissés
pour compte, et des Français, absolument, tu as raison. C'est-à-dire que les policiers, quand par exemple Emmanuel Macron, au mépris de la présomption d'innocence de ce policier, semble tout de suite considérer qu'il est fautif, on met en place la minute de silence, etc., quoi qu'on en pense, ça a quand même heurté, l'affaire Naël, ça a heurté un certain nombre de policiers. Quand effectivement le président de la République justifie les émeutes par l'oisiveté, aujourd'hui on voit ce qui s'est passé avec Samara, avec Viry Châtillon, on nous dit c'est les réseaux sociaux. Enfin, il y a quand même un côté un petit peu voir le réel.
Voilà,
on met la poussière sous le tapis. Exactement. Donc les policiers, je pense, ils en ont un peu marre.
Attendons que la campagne ait réellement commencé ou en tout cas se soit développée. Mais on est en déficit aujourd'hui d'explications et d'exigences de la part, un, du président de la République, le discours des Mureaux il y a longtemps et ça suffit pas. Et deux, de la part du garde des Sceaux qui lui aussi, à mes yeux, n'assume pas la politique de fermeté que souhaite et qu'exige un certain nombre de Français. Et je vais un peu au-delà. On verra les résultats, mais je pense que la majorité des Français, même ceux qui ne se déplaceront pas, souhaitent que les problèmes de l'immigration, pour l'essentiel, reviennent à une politique nationale, politique française. Parce que l'Europe, on le voit bien, on n'a pas insisté sur le pacte immigration, asile, c'est un foutoir sans nom. Notre ami Orban veut pas toucher de l'argent, mais s'il veut de l'argent pour faire mettre des barbelés tout au long de sa frontière, c'est le foutoir sur le problème, qui est un problème compliqué, je le reconnais, l'immigration, mais c'est la clé d'un certain nombre de situations en Europe qui ne sont plus acceptées, notamment en France, par les Français.
Eh ben, on va continuer à parler de l'insécurité à Bordeaux cette fois. Le maire écologiste revient sur ce qu'il avait dit, change son fusil d'épaule et décide finalement d'équiper sa ville de caméras de vidéosurveillance. On en parle dans quelques instants avec vous. 01 80 20 39 21.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud qui vous informe de 13h à 14h sur Europe 1.